Bonsoir. Cette fois-ci, je n'utiliserai pas tout à fait la formule rituelle que je suis très heureux de recevoir l'invité, parce que je suis plus qu'heureux de recevoir l'invité, qui est un grand ami, Bernard Plossu. Et Bernard Plossu est, à mes yeux, le plus grand photographe français vivant, ce qui n'est pas rien. Alors, Bernard Plossu a une œuvre considérable. Et justement, un des livres qui vient de paraître et qui s'appelle « L'abstraction invisible », Bernard Plossu, entretien avec Christophe Berthoud, présente le très grand avantage d'offrir un panorama de tout l'œuvre de Bernard, avant même d'ailleurs ses débuts en tant que photographe. Et c'est un entretien, et Christophe Berthoud lui-même connaît Bernard Plossu, il le dit, depuis le 16 juin 1994. Et les questions qu'il lui pose sont extrêmement pertinentes. Alors moi, j'ai calculé. Moi, je connais Bernard Plossu depuis le 22 décembre 2006. C'est beaucoup moins. Mais nous nous sommes rencontrés à la librairie Mola, au rayon Beaux-Arts. Et j'étais en train de faire mes courses de Noël. Et j'ai croisé Marie-Christine Moreau, qui a publié déjà certains livres de Bernard Plossu. Et il devait être 16h, 16h30. Et elle me dit, tu sais, Bernard sera là à 18h. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je reste, je suis resté, j'ai attendu. Il ne me connaissait pas. Et il venait signer un album absolument magnifique, d'ailleurs, l'album que de l'exposition de Strasbourg, de début 2007. Ouais. Et là, j'ai attendu que les gens fassent signer. Et au bout de quelques instants, nous avons discuté plus de trois quarts d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, Bernard m'a tutoyé, voilà. Et donc, Et nous avons eu ensuite une correspondance par mail frénétique, surtout d'ailleurs à propos de la littérature italienne, puisque moi, j'amenais mes élèves en Italie. Ouais. Et donc, Bernard est passionné d'Italie, d'abord, et de littérature italienne. Alors, Bernard Bernard a une production inépuisable. Il continue à prendre des photos, mais il dispose d'archives photographiques absolument énormes. Ce qui fait que quand il a un projet d'exposition ou de livre, il n'a qu'à puiser dedans et organiser selon un principe. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il a une connaissance absolument phénoménale de toutes ces photos sur les planches contact qu'il a prises. Et donc, il lui suffit d'organiser tout cela, à la fois la mise en page sur le livre ou aussi dans la perspective de l'accrochage d'une exposition. Alors, ma première question va porter donc sur l'abstraction invisible, entretien avec Christophe Berthoud. Comment s'est décidé cet entretien et ce livre?
En fait, il y a un an, jour pour jour, j'étais à Ferrare. Parce que Dominique Paini, qui fait l'exposition Antonioni en ce moment, m'a parlé de la brume à Ferrare. Donc je suis parti à Ferrare. Et là, j'ai beaucoup pensé à Francis, puisqu'il était venu à Aix-en-Provence, à la galerie La Non-Maison de Michel. Il était venu faire une conférence sur Antonioni. Et donc, je ne réponds pas directement à ta question, mais j'y réponds. C'est-à-dire que c'est une manière de, j'ose pas dire travailler, mais une manière de vivre qui est faite de perpétuels entrecoupements avec des gens passionnants. Et une des choses les plus extraordinaires d'un métier comme le mien, c'est de rencontrer des gens vraiment très, très intéressants. Donc à Ferrare, je pensais à Francis que j'avais rencontré à Bordeaux. Voilà, c'était. Donc notre amitié, elle tient essentiellement autour des écrivains italiens, en tête de tout, parce que c'est toi qui avais venir Elisabeth Arasi.
Oui, absolument, oui.
Moi, j'ai une passion pour les Rosetta Loy, qui est une femme italienne qui écrit très bien, enfin, c'est très beau. Et pour répondre à ta question, comment est né ce livre ?
Oui.
Alors, nous voilà dans le livre. Alors, comment faire ? Donc, il y a 20 ans, je rencontre un jeune qui était à l'école d'Arles, qui s'appelle Christophe Bertou, et sa femme et lui se sont installés à Marseille. Il a fait l'école d'Arles en objecteur de conscience, et il est très soigneux dans sa manière de travailler, il est très bien organisé, et je l'ai senti assez vite, j'écris énormément de notes, et tout ce que j'écris qui n'est jamais publié, j'envoie tout à Christophe Bertou. Donc quand Clément Chéroux, qui est le directeur de la photographie au Centre Pompidou, qui dirige cette collection de livres, lui a proposé l'idée de faire quelque chose avec moi, on a été d'accord tous les deux tout de suite, parce qu'il y a vraiment une possibilité de dialogue très, très direct. Le contenu du livre, on va en parler après, mais derrière, en fait, c'est pas une commande, si une sorte de commande de Clément Chéroux, qui vient d'ouvrir, enfin qui est en train de... Je sais pas si elle a ouvert l'exposition Cartier-Bresson au Centre Pompidou en ce moment, qui a demandé à Bertou de faire ce livre. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Beaucoup de choses, ça va venir petit à petit. Le plus intéressant, c'est le titre. Parce qu'en fait, c'est un livre, Bertou et Chéroux, ce qui les intéressait, c'est que je parle de mon métier de photographe et non pas le fait que je suis un artiste éthéré avec un A majuscule. Ils aiment bien le fait que je viens pas du tout de là. C'est mon métier. Je publiais des photos dans Salut les copains, Nous deux, Confidence, Atlas, Réalité. Je suis photographe professionnel de métier. On n'a pas idée dans les placards de la quantité de publications commerciales que j'ai. C'est vraiment énorme. Et tout d'un coup, voilà que des gens comme Chéroux et Bertou, ça les intéresse, justement ça. Et dès le début, ils m'ont dit, on veut parler de ça, on veut parler de ce métier de photographe avant que les écoles photo n'aient été créées, avant que les grands musées fassent des expositions de photos. C'était quoi être photographe ? En gros, je pourrais répondre, c'était faire un métier... Donc, par exemple, je ne savais pas du tout qui était Robert Franck. Aucune idée. Moi, la photo, c'était le Mississippi pour Raymond Cartier dans Atlas. Robert Franck, je ne connais pas. Alors, la chance, c'est qu'en même temps, j'ai toujours fait mes photos à moi, pour rien, ce qui est le cas du voyage mexicain. Et ces photos-là, j'ai su les garder et puis réfléchir plus tard et en faire un métier, non pas d'artiste, mais d'auteur. Ma sécurité sociale... Je suis auteur photographe, comme un musicien, comme un compositeur, comme un... je suis pas artiste de définition. Ça paraît anodin, mais ce genre de petits détails, par exemple en Espagne, quand je me suis installé en Espagne, mon métier comme photographe n'ayant pas de magasin était, c'est très joli, photographo al aire libre, photographe à l'air libre. Et finalement, je suis très content d'être un photographe à l'air libre, beaucoup plus qu'un artiste. Ça en dit long, d'être photographe à l'air libre. Ça permet d'aimer les cailloux.
Ce qui est ton cas.
Donc, l'histoire de ce livre, c'est un mélange de cette période-là et du moment où j'ai basculé vers la photo officiellement créative. Et bon, maintenant, je peux ne faire que ça. Mais ça a été une longue histoire. Donc ce livre, c'est ça. Ça retrace un itinéraire de photographe qui devient, avec le temps, accepté dans un milieu plus difficile à pénétrer, les musées. Et en tant qu'auteur, je le revendique d'autant plus que je fais énormément de livres et que je connais beaucoup d'écrivains et que mon travail d'auteur est très lié à tous mes amis écrivains, quoi.
Alors un mot qui est très important aussi, c'est le mot amitié, tu l'as prononcé, et il y a un deuxième mot qui est très marquant, c'est le mot rencontre. Et tu es un amateur de rencontres. Et ton parcours est lié, effectivement, à des rencontres successives et à des amitiés successives, qui sont assez extraordinaires, d'ailleurs, je trouve. Hein, tu... Alors, le départ, c'est... En, enfin, un premier départ, disons, c'est quand tu... Quand tu décides de ne pas passer le bac et de partir au Mexique, tu as...
J'avais une famille là-bas.
Voilà, tu avais tes grands-parents.
Mes grands-parents,
voilà, voilà, tu avais tes grands-parents maternels qui étaient là. Donc tu pars au Mexique et là, bon, ton père te demande de t'inscrire dans des études, mais très vite, tu les abandonnes. Et immédiatement, tu vas, ou très rapidement, tu vas participer à une expédition. Une expédition dans une région...
Dans la jungle du Chiapas.
Voilà, dangereuse. Dans la jungle du Chiapas, etc. Avec caméra et appareil photo. Ouais. La caméra tombe à l'eau. Et tu vas donc, là, déjà, faire un reportage... Enfin, commencer un reportage photographique.
J'avais un, pour ceux qui sont photographes, j'avais un Soligor 450 mm qui ouvrait à 8 pour photographier les crocodiles. Un truc, c'est incroyable. Et effectivement, j'ai photographié crocodile, anaconda, la totale.
Et alors au Mexique, tu vas faire des rencontres extrêmement fécondes. Tu vas rencontrer certains beatniks.
C'est l'époque beatnik. En fait, ils sont tous au Mexique parce qu'au Mexique, il y a de l'herbe. Et à l'époque, Nixon n'était pas encore président et c'était assez libre. À partir du moment où Nixon a été président, ça est devenu très difficile et beaucoup de hippies et de beatniks se sont fait arrêter sur ordre de Nixon. Mais bon, c'est vrai qu'à la campagne au Mexique, c'est un truc qu'on trouve qui n'était pas un délit à l'époque. Et les beatniks allaient au Mexique pour ça, beaucoup, beaucoup pour ça. Quand on revoit les livres qui sortent sur Ken Kesey, le bus des Mary Pranksters, toute la bande, ils allaient pour ça. C'est pas la peine de le cacher, ça fait partie de ce monde-là, de cette époque. Et en général, je vais tout de même dire une parenthèse, c'est que ce milieu beatnik que j'ai bien connu n'est pas du tout lié aux drogues dures. Je n'ai connu aucun vieux beatnik qui touchait aux choses... on n'est pas à New York, on n'est pas dans le milieu Andy Warhol, etc. On est chez des écolos qui aiment la nature et les plantes, dans cette plante-là. Mais on n'est pas dans la drogue du tout. C'est une précision parce que un jeune peut être un peu choqué quand je parle d'herbe. Et à l'époque, ce n'était pas considéré comme une drogue. C'est comme du vin en France. Quand je suis revenu en France, que je suis rentré dans un café en Bourgogne avec des copains américains, on n'avait jamais vu autant de mecs drogués que ça. On les a regardés, c'est « This is the tribe of the rednecks, red noses ». Ils étaient tous avec des nez rouges. Donc, c'est pas autre chose que ça, en fait. À l'époque, c'était pas du tout considéré comme un... Bon, après, Nixon a mis son grain de sel, et alors là, en avant.
Et alors, tu vas...
Parenthèse.
Tu vas, à partir de ces photos que tu prends au Mexique, réaliser un livre qui est maintenant mythique et qui a donné lieu à plusieurs rééditions et qui a une jeunesse absolument extraordinaire qui s'appelle Le Voyage Mexicain. Et donc, il y a eu des rééditions successives, etc. Et ensuite, tu fais aussi connaissance avec de nombreuses personnes, et notamment un étudiant américain qui s'appelle Bill Coleman, qui, lui, qui habite en Californie et qui va t'amener en Californie à Big Sur et qui va te faire connaître d'autres personnes.
Tout le monde, tout le milieu de l'époque.
Voilà, tout le monde.
C'était un an avant le Summer of Love en 67, c'était en 66. Bill Coleman était un des fondateurs du mouvement pour la paix avec John Baez, Ira Sandfeld et tout ça. Et après, il m'a présenté tous ces gens-là. Il m'a présenté tous les grands photographes, Ansel Adams, les fils de Weston. Enfin, il m'a présenté Henry Miller. On a un petit projet sur Henry Miller avec Michel Cohen. Et grâce à Bill, j'ai rencontré tout un milieu américain que je n'aurais peut-être pas rencontré tout seul. En tout cas, ce n'était pas du tout l'ambiance New York. On est sur la côte de Big Sur, on est dans le retour à la nature, on est dans les gens qui lisent Whitman et Thoreau. On est complètement dans une sorte de vraie écologie. Et c'était l'époque de la guerre au Vietnam. Donc le fait à l'époque d'être pacifiste, c'était un délit. C'était grave, c'était important. Je veux dire, c'était vraiment difficile. Je me souviens d'un de mes copains américains sur le campus, il y avait ceux pour et ceux contre. Ceux pour n'étaient pas très nombreux, mais c'était même une période très très difficile. Il y a eu énormément de morts au Vietnam. Enfin, c'était sérieux, c'était pas juste une plaisanterie. Donc voilà, j'ai la chance de tomber dans cette période qui est une période de rébellion intéressante. Il y a un petit livre qui dit tout ça très bien, c'est le petit bouquin qui s'appelle Far Out. Là. Et ça, c'est sur cette période. Mais en même temps, c'est une période intéressante, mais ma vie, je suis photographe, je ne suis pas représentant de ma génération. En aucun cas, je veux devenir le porte-parole d'une époque, parce que ce qui compte dans ma vie, c'est la rigueur de la photographie. Ça passe avant même l'époque hippie. Enfin, la rigueur de l'image, c'est ce qui m'intéresse.
Bon, on va y venir, puisque c'est lié aussi au titre de ce livre, L'abstraction invisible. Mais je voulais dire au passage que en Californie, tu découvres aussi un endroit qui te marque beaucoup et qui est la côte au nord de San Francisco.
Ben c'est Big Sur. C'est aussi de San Francisco,
non,
Big Sur.
Non, mais moi, je parle de la côte au nord.
Ah, de nord aussi.
Au nord, la côte brumeuse, avec les brumes.
Ben, oui.
Tu en parles aussi.
On la voit un peu dans les oiseaux de Hitchcock, Bodegavet. Bon, ça, c'est le nord. Hein. Big Sur, c'est au sud.
Oui, 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 bien sûr. Monterey.
Oui. Carmel.
C'est ça. Ouais,
il paraît que ça a changé. Bon, pas la côte. Carmel a changé. Enfin.
Bon, et alors ensuite, tu rencontres des photographes, donc, autour de Ansel Adams, etc. Mais tu reviens à Paris et tu as aussi des activités. Et tu commences, à Paris, tu as surtout des activités, comme tu l'as dit tout à l'heure, des activités, je dirais, de photographe de publicité ou de
pas de publicité, éditoriale.
Éditoriale, oui. Oui. En tout cas, pas d'auteur pour le moment, pas encore.
Non, mais quand je fais les photos d'un livre de moi que j'aime pas du tout, qui s'appelle Go West, qui est un livre en couleur sur l'Ouest américain, les photos sont au grand angle, au téléobjectif, c'est vraiment mauvais, quoi. Et en même temps, c'est vrai, vous souriez, mais c'est un mauvais livre. Enfin, les gens me disent, c'est toi qui as fait ça. Et en même temps, j'ai fait toutes les photos qui sont sorties 20 ans après dans un petit livre qui s'appelle So Long, qui est un petit livre en noir et blanc sur l'Ouest américain. Ça veut dire que là où j'ai pas bien joué, mais là où j'ai toujours réfléchi, c'est qu'en même temps que je faisais ces photos-là, les mauvaises, je faisais les noirs et blancs 50. Pour moi. Sans avoir la moindre idée qu'un jour, elles sortiraient. Et c'est ça qui est sorti des années après et qui sort comme ce que j'ai construit, c'est ça en fait. Donc en même temps, j'avais les deux boîtiers et la double pensée. Les photos pour moi qui ne servaient à rien. En gros, toutes les photos intéressantes que j'ai faites sont des photos que j'ai faites parce que elles ne servaient à rien. Et toutes celles qui ont servi à quelque chose sont mauvaises. Ça, c'est une jolie métaphore, mais bon, pourquoi pas. C'est pas si simple, hein. Je me pousse un peu le
Non, non, mais c'était des bouchon. Photos qui étaient vendables, disons. C'était ça, surtout. C'était... Bon, et ensuite, en France, tu vas petit à petit faire d'autres rencontres, à Paris notamment, dans
Oui. La grande rencontre, c'est Alan Forter à Caméra.
Voilà.
D'ailleurs, le prochain numéro de la revue Caméra va être sur Alan Forter. Caméra, c'est la grande revue de photos, je suis sûr que vous connaissez tous. C'est une revue suisse qui avait comme directeur Romeo Martinez, et après un Américain qui s'appelait Alan Forter, qui est le seul qui montrait autant les Américains que les Européens, que les Orientaux, il montrait les photographes intéressants du monde entier, connus ou pas connus. Et Caméra vient d'être recréé à Paris, et ils viennent de me contacter pour parler d'Alan Forter, justement, une nouvelle revue où le prochain numéro est sur lui. Et ça, c'est formidable. C'est chez Alan Forter que j'ai passé 3 jours avec la plus grande dame de la photographie, qui est Lisette Modell.
Mais que tu avais connue déjà à San Francisco.
Que j'avais connue à San Francisco, et qui était la professeure de Diane Arbus. Donc voilà, là on est dans un milieu rigoureux de la photographie et de l'image qui connaît bien le sujet. Alan Forter, c'est marrant parce qu'au lieu de Paris, je parle d'Alan Forter qui n'était pas à Paris, mais la clé de l'époque c'était lui.
Oui, tu dis d'ailleurs que c'est lui qui t'a appris à trier les photos. Ouais. Celle-là elle est mauvaise, celle-là elle est mauvaise, celle-là elle est mauvaise, elle élimine.
Oui, mais on a fait enlever, jeter beaucoup de choses.
Bon, alors petit à petit, donc, tu rencontres certains photographes, certains galeristes aussi, certaines revues, etc., etc. Et puis, bon, tu as tes premières expositions aussi. Tu peux en parler un peu?
Oui. Bon, la première en France, ça a été quand M. Lemagny et la Bibliothèque nationale...
Jean-Claude Lemagny
a décidé de montrer que les photographes du banal étaient aussi des reporters. Donc, il y avait Bruno Requillard, Kuligowski, Bernard Descamps et moi, je crois. Et cette expo, en 74, montrait que les photographes qui faisaient des photos de rien étaient aussi des photographes du réel, du quotidien, de la vie de tous les jours. Mais la première grosse expo que j'ai eue, c'était à Carmel, en Californie, où il y avait le fameux centre de la photo qui s'appelait les Amis de la photographie, Friends of Photography. C'était en 74, et Alan Porter a sorti le portfolio dans caméra en même temps que l'exposition. Et c'est là que j'ai rencontré tous les bons de ma génération américaine. Le meilleur de tous, Louis Bowles, qui est d'une redoutable intelligence, qui pour moi est le plus intelligent de tous les photographes de ma génération, et d'autres comme Steve Kahn, Larry John. Et il faut noter qu'à cette époque, tous les jeunes photographes intéressants tournaient autour de Lisette Model. C'est... D'ailleurs, il y a une exposition que je pourrais faire avant de mourir, ça serait les grands photographes américains inconnus et oubliés.
J'allais te poser la question d'ailleurs, et même beaucoup d'entre eux étant d'ailleurs des photographes d'origine, enfin juifs.
Il y en a beaucoup qui ont renoncé parce que c'était trop dur d'être dans le peloton de tête, et ils ont préféré faire autre chose, mais il y a des très très bons photographes. Historiquement, c'est une autre conversation, enfin, il y a des choses très fortes. C'est pas inintéressant de parler de ça parce qu'il y a tout de même dans le milieu photo pas mal de souffrances, de jeunes qui en ont marre que personne ne parle d'eux. J'ai arrêté d'enseigner, mais je vais vous conseiller. C'est un énorme travail d'aider des jeunes photographes à trouver des gens qui vont parler d'eux. On croit que ça a marché, la décentralisation. C'est pas vrai du tout. Les jeunes photographes que je défends, qui vivent à Lyon, Montpellier et tout, ils ont un mal fou à se faire accepter. C'est aussi difficile maintenant que ça l'était dans les années 70. C'est pas commode du tout. Il y a une grande solitude, il y en a qui désespèrent, qui arrêtent, quoi. J'ai deux ou trois jeunes photographes, ils ont 40 ans, ils vendent 300 euros de photos. On ne peut pas vivre avec 300 euros de photos, c'est vraiment délicat. Quoi.
Et ensuite, tu repars aux États-Unis.
Souvent.
Enfin, tu fais souvent la navette.
Je me marie là-bas.
Voilà, mais tu t'installes. Tu t'installes aux États-Unis. Et là, à un certain moment, tu quittes la Californie et tu vas t'installer dans un coin reculé du Nouveau-Mexique. Ouais. Taos. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce séjour à Taos?
C'était Paul Strand, Weston, Georgia O'Keeffe. C'était sauvage, il y avait trois feux rouges. Un pueblo indien, des Chicanos, des Indiens, des Anglos, des Vitniks. Et pratiquement tous mes copains des années 60 de Californie étaient partis s'installer au Nouveau-Mexique. C'est là que ça se passait. Et à l'époque, c'était rude, il n'y avait pas beaucoup... Et en fait, j'ai été très aidé. Je ne sais pas si vous connaissez un artiste américain qui s'appelle Larry Bell. C'est un grand artiste américain, il est très connu. Et Larry m'a présenté tout le monde. Voilà, encore une rencontre. Et donc, grâce à lui, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens et j'ai travaillé avec 3, 4, 5 galeries. Ça. En fait, j'étais complètement inconnu. Et il est arrivé un petit miracle, mais qui est une anecdote qui vaut son pesant d'or en photo. Art in America, qui était la grande revue d'art américaine, a fait un numéro spécial sur le Nouveau-Mexique. Et la première page de l'article, qui était un 30 pages, était une de mes photos de Taos, où j'habitais. J'habitais à 200 mètres de l'église de Taos. Et du jour au lendemain, je suis passé d'inconnu à celui qui avait la première page de l'article sur le Nouveau-Mexique. Donc ça m'a énormément boosté. Et là, j'ai commencé à travailler avec des galeries, faire plein d'expositions. Mon métier a vraiment commencé, on peut dire, en 79. Avec beaucoup d'expos, des galeries puissantes, m'aidant. Ça a vraiment commencé là, grâce à une parution d'une seule image.
Oui, donc il y a des rencontres comme ça qui ne sont absolument pas programmées, qui se produisent et qui ont des effets totalement imprévisibles et qui changent
ça
tout.
Ça aide.
Hein. Oui.
Donc Tao, c'était encore très, très sauvage, très primitif. C'était encore un endroit de rébellion. À l'époque, il y avait même beaucoup de marginaux. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens et c'était très, très intéressant. Pendant l'histoire de la pensée américaine, Tao, c'est une place à part, un peu comme, comme Black Mountain, le collège de Black Mountain, qui n'est pas très connu en France, qui est un peu tout de même très connu en Espagne. Les Espagnols sont très fans. Black Mountain, c'était ce collège, il y avait Merce Cunningham,
John Cage. À quel endroit ça se trouve?
Je ne suis pas allé.
Ah bon?
C'était quelque part à la campagne. Il y avait bon, toute la vente de Rauschenberg et tout ça. Enfin, c'était une grande époque de culture des années 50. On a ressorti ça quand on a fait l'exposition avec Michel sur la Sainte-Victoire, que j'ai appelée la Montagne Blanche, en hommage à la Montagne Noire américaine.
Et Tao, c'est aussi un peu le désert aussi. C'est un des.
Alors, bon, on en désert a pas... de montagne.
De montagne.
2200 mètres.
Hein. De montagne. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais tu as un certain goût pour les déserts. Et cela, à partir d'un voyage que tu avais fait avec ton père dans le Sahara. Tu étais très jeune. Et déjà, ton père prenait des photos. Et tu. Certainement que ça a eu.
C'était l'initiation, Vanny Flash.
Voilà. Mais ensuite, tu dis quelque part qu'à un moment donné, tu as voulu rompre avec des paysages européens de forêts, de végétation.
J'avais besoin de cailloux, quoi.
Et voilà, tu avais besoin de cailloux. C'est le terme que tu emploies,
de cailloux. Tu connais, c'est de quoi je parle.
Voilà. Et tu as fait aussi, alors à ce moment-là, un peu... est-ce que c'est... je ne me souviens plus des dates exactement, mais tu as fait quelques voyages, enfin, tu as fait plusieurs séjours dans le Sahel aussi. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à Tao, c'est avant, hein?
On trouve quelques traces de ça. Il y a un 33 tours qui s'appelle Les Nomades du Niger, où il y a une face des peuls bororo en train de danser. Et c'est moi qui fais ça avec le preneur de son Jean-Rouge, Moussa Amidou. On est parti retrouver un groupe de peuls. En fait, je vais répondre un peu de manière romantique, mais je pense que tout le monde est comme moi. C'est-à-dire qu'on est tous, les Européens, fascinés par les Indiens d'Amérique. Donc mon héros, c'était Cochise, le chef des Apaches, Chiricahuas. Et j'avais l'impression qu'en marchant dans l'Ouest américain, je pourrais retrouver l'ambiance des photos de Curtis que je n'ai jamais retrouvées. En fait, j'ai retrouvé Curtis au Sahel, en étant chez les peuls bororo ou chez les Touaregs. Là, j'étais vraiment dans le côté tribal des Apaches. Et je n'ai pas retrouvé ça dans l'Ouest américain. Par contre, dans l'Ouest américain, j'ai trouvé le côté un peu mystique de Castaneda. Et j'ai beaucoup aimé marcher dans l'Ouest américain, parce que même s'il n'y avait pas des Indiens, ils étaient là. C'est des coins tellement sauvages quand on les fait à pied. C'est dangereux, hein. J'ai deux ou trois petits accidents. Mais c'est des coins où ils sont là. Quoi. C'est des coins marqués à vie. En plus, il faut bien savoir, la clé des Indiens d'Amérique, c'est par exemple les Navajos, quand ils faisaient des tableaux de sable, ils les laissaient dans le sable pour que le vent les efface. Et ça, je trouve que ça résume toute une manière de penser. On est vraiment hors commerce. Et c'est vraiment une grande liberté d'esprit de pouvoir faire des choses merveilleuses. Parce que finalement, on ne va que là. Même les choses qui valent très cher seront oubliées, puisque la Terre va exploser, il y aura un météorite. Donc les Navajos, ils nous ont devancés. Au lieu de devenir célèbres, ils laissent le sable faire partir leur œuvre. Et je trouve ça tout de même une chose importante dans l'esprit de la région.
Bien. Et alors ensuite, tu rentres en Europe, d'une manière d'ailleurs un peu douloureuse, mais tu...
Oh ben je divorce.
Tu divorces, voilà, bon.
C'est pas le premier, pas le dernier.
Et voilà, et tu changes totalement de vie et de lieu. Bon, tu rencontres Françoise Nunez, qui est toulousaine. Et ensuite, vous allez vous installer...
En Andalousie. Qui est très beau, c'est très beau.
Voilà. Et vous y passez plusieurs années, d'ailleurs.
Oui. En fait, j'ai un historique avec l'Espagne, parce que je travaille avec les Espagnols depuis 1973. Les plus marginaux de ma génération, quand j'avais 25 ans, c'était les Espagnols. Ça s'appelait Nueva Lente. C'était une revue très contestataire à Madrid. Et Nueva Lente, c'était le contraire de revues absurdes comme Photo. Nueva Lente, il n'y avait pas de filles nues en couverture. C'était des montages surréalistes. C'était pas du tout un prétexte pour faire un faux lui. Novalente, c'était une revue de photos contestataires, comme Contre-jour en France, après. Et les Espagnols ont toujours eu un esprit très surréaliste, et c'est pas un hasard si je suis tout le temps en Espagne, que je fais des livres en Espagne sans arrêt, parce que ils ont ce sens du jeu. Les Espagnols, ils font des choses très, très gonflées, plus que les Français, ça va plus loin. Donc, il y a eu l'amour d'une Andalouse et de l'Andalousie, mais l'Espagne a toujours été très présente dans ma vie. C'est pas comme l'Italie. Hein.
Voilà, voilà, j'allais poser la question. Tu as un tropisme italien aussi, mais qui n'est pas du même ordre.
Non.
L'Italie... Ta mère est d'origine italienne.
Toi aussi, non?
Ta mère.
Oui, mais il m'en reste rien, il m'en reste un 16e. C'est rien du tout, par contre, je le revendique très fort. Mais c'est pas la même histoire, l'Italie et l'Espagne.
Oui, c'est sûr.
En Espagne, je travaille beaucoup, en Italie, un peu, pas tant que ça. Je fais beaucoup de photos, je crois que j'y vais par plaisir plutôt que par profession. Enfin, j'ai fait que des expos en Italie, mais beaucoup moins qu'en Espagne.
Donc, tu reviens, tu viens en Espagne, et puis ensuite, tu vas t'installer à La Ciotat. Et là, les choses ont beaucoup changé parce que tu deviens quelqu'un d'assez connu, mais qui en même temps se situe en dehors des grands sentiers balisés. Tu as un parcours qui est singulier. Il y a certaines institutions que tu n'aimes pas et qui ne t'aiment pas non plus, d'ailleurs.
Ouais, bien sûr.
Tu n'as pas trop d'atomes crochus avec les institutions parisiennes, on peut dire.
Non, c'est pas si simple que ça, parce que
bon.
Avant que j'aille en Espagne, la personne qui m'a vraiment lancé, parce qu'on était comme Alain Forter au début, c'est Alain Sayag au Centre Pompidou. J'avais 44 ans et il m'a fait une exposition au Centre Pompidou. C'est incroyable. Donc c'est vrai que les institutions parisiennes, je travaille peu avec eux pour la simple raison que j'ai fait un truc très bien avec Pompidou. Je n'ai pas forcément besoin de montrer le bout de mon nez à Paris tout le temps. Il y a un projet l'année prochaine sur l'Italie. Mais disons que je ne leur cours pas après. Il y en a avec qui je m'entends, d'autres pas, mais bon, il n'y a pas d'urgence. Ça a été très bien fait en 88. Sayag a fait une très belle expo. La même année, bon, il s'est passé plein de bonnes choses, une bourse, etc.
C'est important. Après, tu as le Grand Prix de la photographie aussi.
La même année, oui. Donc ça, évidemment, c'était la première fois qu'un jeune l'avait aussi. Donc en fait, ce n'est pas moi qui l'ai donné. C'était un symbole de donner à un plus jeune, de donner le prix, non pas à Brassailles ou Cartier-Bresson ou des grands noms, mais à quelqu'un de la nouvelle génération. Ça n'a pas servi qu'à moi, ce prix. Ça a servi à une époque. Je pense que ce n'est pas un prix personnel.
Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'à ce moment-là, vous vous trouvez dans les îles Lipari, je ne sais plus dans laquelle des îles.
Ah, je croyais que c'était une blague.
Oui, tu crois que c'est une blague, tu ne le crois pas d'ailleurs.
J'en reçois le télégramme, ça devait être Jatland, rentrée d'urgence, je me dis c'est des copains qui me font une blague. C'était vrai. J'étais comme d'habitude au bout du monde dans une petite île, mais là avec femme et enfants. On habitait un petit village de Lipari, ça s'appelle Canetto, et un petit village des îles Éoliennes. Donc toujours cette notion d'arrière-pays, toujours aller dans l'arrière-pays. Ça doit être le livre d'Yvonne Foy qui m'a traumatisé une fois pour toutes, qui est un merveilleux livre. Et donc, je croyais que c'est une blague. C'est vrai.
Oui. Et donc, cela dit, tu as beaucoup de commandes. On te propose...
Oui, beaucoup de commandes, grâce à ça.
Voilà.
C'est le fait d'avoir cette expo que j'ai pu tout d'un coup commencer à avoir des commandes officielles. C'est-à-dire des commandes d'État, des commandes de région, qui sont vraiment, c'est un métier passionnant. On vous dit le Jura, la réserve géologique de telle partie, enfin, c'est passionnant. Et au lieu de vous dire, vous devez faire ça, on vous dit, faites carte blanche, faites votre style. Et là, je me suis vraiment éclaté, j'adore les commandes. On a eu quelques discussions assez violentes avec des critiques qui détestent la commande. Des photographes en général, j'ai dit, comment croyez-vous qu'on peut vivre ? Il y a eu un critique du Monde dont je tairai le nom, mais il était contre la commande photographique. Mais comment faire ? Enfin, c'est essentiel qu'on ait des commandes. Alors il dit, vous faites le pire de ce que vous faites quand vous faites des commandes. Mais je dis, mais pas du tout. On est forcé, parce que c'est un paiement public, de faire le mieux qu'on peut. Et pas les pires. La commande, c'est une responsabilité. Toi.
Ah, moi, je trouve que ce sont des livres merveilleux. Celui, par exemple, bon, celui sur le Jura, dont tu as parlé. Bon, plusieurs...
Il y en a une quarantaine.
Enfin, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais, par exemple, celui sur le littoral en Savoie et Haute-Savoie, je trouve que c'est un livre absolument merveilleux.
Les lacs du littoral.
Voilà, les lacs du littoral. Bon, ce que tu as fait à Porquerolles, etc. Je veux dire que toutes ces commandes, en plus, il y a un cahier des charges. Hein, et tu le respectes.
Très strict.
Oui.
Alors là, il y en a eu en Italie, il y en a eu en Espagne, aux États-Unis, je crois, une fois, avant que je parte. En Belgique, il y a eu en Belgique, à Anvers, une fois. Enfin, c'est un métier. Les commandes, ce qu'on pourrait dire techniquement, qui est intéressant sur les commandes, c'est que je les fais comme le reste. C'est-à-dire, c'est au 50. Pas de grand angle, pas de téléobjectif, pas de photos esthétiques, que des photos très rigoureuses comme ce que je fais d'habitude. 80% en noir et blanc, 20% en couleur, mais toujours au 50. La commande, j'ai cette chance qu'on me demande de faire le genre de photos que j'aime faire, et pas des photos de calendrier de voyage.
Oui, alors justement, j'allais en venir à une question un peu précise à propos du style Plossu ou de l'absence du style Plossu. Mais avant, je voulais faire une autre remarque à propos de ton refus de ce qu'on peut appeler le joli. Hein, et il y a une phrase d'ailleurs que j'adore dans ce que tu dis là. Tu dis que tu ne te sens absolument aucun point commun avec Sébastien Salgado.
J'ai horreur de dire du mal des autres, c'est pas ça, mais c'est très beau, Salgado, et c'est pas ma vision du monde. Ça veut pas dire que j'aime pas. C'est pas ma vision, c'est deux mondes différents. Mais au 50, en fait, le 50, c'est pas compliqué. Pourquoi je fais du 50? Le jour où j'ai décidé que c'était la rigueur qui était forte en image, j'avais en tête 50 cinémathèques. Donc tous les films caméra à l'épaule de Raoul Coutard. Je dis bien de Raoul Coutard, c'est-à-dire les Godard et les Truffaut filmés par Coutard. Et quand on a vu toute la nouvelle vague en cinéma et qu'on est marqué par ça, on a envie de faire ça. Et l'objectif le plus sobre pour ça, c'est le 50 mm, donc je ne fais que ça. Il est chez Nathalie, la meilleure femme. L'appareil est là, j'en ai fait un rouleau ce matin chez elle. Et là, je suis sorti sans l'appareil. Mais c'est très très rare que je n'ai pas l'appareil. Il faut vraiment que je sois sonné.
Alors, je voulais signaler au passage que je me souviens tout particulièrement, puisque j'étais présent ce jour-là chez toi, du jour où, avec Michel Cohen et avec Monsieur Neveu, quel est son prénom, vous avez mis au point ce qui allait donner lieu à la double exposition.
À Plossu Cinéma, alors.
Plossu Cinéma, voilà, absolument. Au FRAC à Marseille et chez Michel. À la galerie La Non-Maison à Aix-en-Provence. Et c'est un livre d'abord magnifique et aussi très important, justement.
Mais il y a beaucoup de textes dedans, très intéressant. Oui. Bergala, Paini,
Alors justement, je voulais en venir à la question du style. Y a-t-il un style Plossu ou non? Et à la question de ce titre, justement, l'abstraction invisible, qui a rapport aussi avec la notion de rigueur. D'abord, y a-t-il un style Plossu ou n'y a-t-il pas de style Plossu? Et pourquoi? C'est toi d'ailleurs qui, tu le dis, c'est toi en quelque sorte qui a choisi ce titre.
Je crois qu'on était en train de bavarder avec Berthoud. Il est sorti, la photographie est toujours une abstraction invisible. Et toc, à la seconde, on a laissé le titre. Alors là où il y a eu un truc qui est passionnant, c'est que l'éditeur, au lieu de mettre une photo plus commerciale, a accepté de mettre une photo difficile en couverture, parce que c'est une bande de planches, quoi. C'est des planches. C'est vrai que c'est l'abstraction invisible.
Ou celle-ci aussi.
Là, l'éditeur a vraiment joué le jeu, parce que c'est une couverture, c'est une anti-couverture. Ça va pas plaire. Mais en même temps, c'est ça, l'abstraction invisible. C'est une fenêtre à Lipari avec deux planches, et on parle bien de ça. En gros, là, je n'enseigne plus. Mais si je continuais à enseigner, je dirais à tous mes élèves... J'aurais dit cette année à tous mes élèves d'aller en courant voir l'exposition de Braque à Paris. Le plus grand photographe, c'est Braque. Ça peut répondre à votre question sur la rigueur. Braque, par rapport à Picasso, c'est la rigueur. Et en photo, il faut regarder Braque pour un photographe. Parce qu'il y a énormément de nourriture Chevrac pour un photographe. On peut en discuter après, ceux qui s'en foutent ou contre, je ne sais pas.
Tu as réalisé aussi, toujours avec Michel, d'ailleurs, un petit livre sur Paul Strand, qui lui aussi est...
Un hommage à Paul Strand.
Voilà, un hommage à Paul Strand, qui est aussi de cette école et qui est pour toi une très grande référence.
Bah, il suffit de voir le photo poche sur Paul Strand pour comprendre que c'est non seulement un maître rigoureux, mais c'est aussi un homme qui a terminé sa vie dans une petite maison en France avec un jardin et qui a eu, tout en étant célèbre, qui a eu la grande intelligence de refuser la gloire à New York. Il a terminé sa vie en France, Paul Strand, pendant 15 ans, avec un petit jardin à Orgeval, à photographier ses plantes. Et moi, cette partie-là de sa vie me fascine. Voilà un grand monsieur qui est en plus un grand monsieur. Il y a tout, les photos sont fortes, l'homme a beaucoup à dire. Et au lieu de jouer le jeu de la gloire à New York, mais il est venu dans son petit jardin à Orgeval. Moi, je trouve ça fabuleux. Ça m'a appris, ça m'a aidé à redécouvrir mon pays aussi. Parce que j'étais fasciné par le désert. Je pensais que je ne pourrais plus jamais habiter en Europe. Et finalement, maintenant, je me régale en allant dans le Jura, dans le Massif central. C'est très, très beau. L'année dernière, je suis allé à Saint-Malo. Là, je pars demain à La Rochelle et à l'île de Ré, que je ne connais pas. Je découvre tout ça. Et peut-être Paul Strand m'y a aidé. Quelque part.
Alors, je vais revenir à la charge. Pourrais-tu préciser cette notion d'abstraction invisible?
C'est-à-dire que là, même sans appareil de photo, j'ai déjà vu 10 photos à faire dans cette pièce, simplement la manière dont les lignes de force se croisent. À partir d'un certain moment, on ne peut plus ne pas voir. Quand on est photographe, on voit tout le temps. C'est obsessionnel. Et j'ai essayé plusieurs fois ce matin de poser mon appareil chez Nathalie qui est là, de le remettre dans ma chambre. Je suis retourné le chercher 3 fois. Donc, l'abstraction invisible, c'est constant. C'est-à-dire qu'elle est là sans arrêt, quoi. Elle est là, c'est 3-4 ans. Bon, c'est très français. Enfin, Cartier-Bresson est le maître de l'abstraction.
Oui, ça vient de Poussin, ceci, par exemple. Enfin, il y a une filiation.
Entre parenthèses, l'expo qui va commencer à Pompidou va être magistrale. Parce qu'il y a beaucoup d'inédits de Cartier-Bresson qui vont être dans ces expositions. Ça va être très, très intéressant.
Alors, bon, puisqu'on parle de Cartier-Bresson,
peut-être donner un exemple?
Oui, vas-y.
Le photographe le plus fort en abstraction invisible, c'est Robert Franck. Parce que c'est pas bien composé, c'est n'importe quoi. Mais dans ce n'importe quoi, il y a toute la poésie de l'abstraction qui éclate. Il peut pas rater une photo, Franck. Il n'y a pas une image de lui qui soit mauvaise. C'est hallucinant, quoi. C'est très, très impressionnant. Il y a toujours quelque chose qui va, en plus de l'abstraction, il y a un mystère. En plus d'être bien composé, il y a un truc qui passe, qui fait que les 3 ou 4 lignes qu'il voit s'arrondissent et deviennent voluptueuses. C'est un photographe extraordinaire. Je pense qu'on est tous d'accord sur Robert Franck. Tous les passionnés de photos sont... Mais c'est pas mon maître. Hein. Je l'adore, mais c'est pas mon maître. Je suis plus marqué par Corot et par Raoul Coutard.
Alors, à propos de Cartier-Bresson, c'est une question un peu anecdotique, à propos de la notion d'instant décisif. L'instant décisif, pour toi, c'est pas simplement le moment où Cartier-Bresson saisit celui qui saute une flaque, là, qui est bon. L'instant décisif, au contraire, c'est quelquefois celui où il ne se passe rien. Alors, est-ce que tu pourrais l'expliquer un petit peu, ça?
C'était très, très typique à la gare de Lisbonne. Il y avait 2 photos qui sont dans le livre. Oui. Il y avait une photo décisive, c'est-à-dire il y avait une ambiance, des wagons, une gare vide, enfin c'était très beau. Il y avait un côté un peu à la Rennais. Et c'était une gare vide, donc j'ai fait la photo, et la photo, je la revendique, c'est la mienne. Il y a cette ambiance, il ne se passe pas grand-chose. Et après, il y a un monsieur qui est passé, qui a fait un entrechat en courant. Comme je suis très rapide, j'ai fait un Cartier-Bresson, en toute modestie. Pas aussi bien qu'un Cartier-Bresson, mais j'ai pris l'instant décisif. Et des 2, la photo qui est la mienne, c'est celle où il n'y a pas le monsieur qui saute, évidemment. Donc on s'est amusé avec des copains à dire que je pouvais être le représentant de l'instant non décisif. Voilà, mais c'est un jeu de mots et en aucun cas une théorie voulant singer mon maître. Il est évident que j'adore Cartier-Bresson.
Alors, je voudrais poser une question à propos du style ou du non-style, et notamment à propos de quelque chose qui est souvent frappant dans tes photos, qui est le flou.
Hein, il y a un flou.
Moi, j'ai été très sensible souvent à ce flou, comme si ce flou était au fond lié au mouvement. À la marche, à la danse, etc.
C'est pas un flou, c'est un tremblé du mouvement la nuit.
Ah, tremblé du mouvement. C'est magnifique.
Donc c'est pas pareil. En fait, à un moment, les gens qui parlaient qui me publiaient ne montraient que les photos un peu floues, et je me suis révélé et j'ai décidé de ne plus les passer parce que je commençais à avoir une étiquette du flou avec tout le monde qui se moquait de moi et tout, et ça finissait par m'énerver. Donc quand on voit le jardin de poussière, il y a un petit livre très rigoureux de paysages de l'Ouest américain, il n'y a pas un flou. On est à midi, en plein soleil, il n'y a rien de flou. Mais il y a une espèce de mode de la photo soi-disant poétique. Et en fait, beaucoup de gens sont mis à faire des photos floues. C'est devenu une tendance. Et je ne me considère pas comme ne faisant que de la photo floue. Je pense qu'il y a aussi des photos nettes. Et voilà.
À propos du tremblé, ça me rappelle le titre que Gaëtan Picon a emprunté à Chateaubriand quand il parle de l'admirable tremblement du temps. Tu connaissais pas cette phrase?
Ah non.
Gaëtan Picon, en plus, c'est quelqu'un de merveilleux.
Qu'est-ce que j'ai lu de lui? Il a écrit sur quel peintre dans les collections Skira?
Oui, L'Essentiel de la création.
Sur qui il a écrit?
Il a écrit
L'Essentiel de la création.
Oui.
Hein?
Pas sur les surréalistes
qu'il a écrit. Non, c'est pas sur celui-là, mais j'ai...
Sur Manet.
Voilà, parce que j'ai lu un texte de lui qui était exceptionnel.
Oui, c'est magnifique. Ah oui. Admirable tremblement du temps, c'est une expression de Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Ah, oui. Alors le style, justement, le style, c'est un style sans style en même temps. Tu le dis d'ailleurs, tu as cette expression hein, que ton style, c'est de ne pas avoir de style. Et en ce sens-là, tu es inimitable. Tu es inimitable.
C'est une boutade. Hein.
Oui. Non, mais je veux dire que au fond, il est très difficile de te parodier, de t'imiter. Il y a une espèce de grâce qui est présente dans ta photo, qui à la fois. Alors tu emploies aussi une métaphore. À un moment donné, tu parles de photographes masculins et de photographes féminins aussi.
Oui, de la nature peut être plus féminine ou plus masculine, mais ça c'est venu en Amérique en fait. Où je faisais des photos et un professeur américain, c'était un stage, m'a dit « You photograph like a woman dancer ». Il m'a dit en gros que j'étais un photographe féminin. Et j'ai réfléchi et comme j'ai passé beaucoup de temps avec Edouard Vouva, qui était mon maître et ami, il y a une grâce dans les photos de Vouva qui est, je pense, je ne sais pas si ça existe, le cerveau, mais je pense que c'est une grâce féminine. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de photos américaines dans l'histoire qui sont des photos plus coup de poing et que ça ne correspond pas à Vouva et moi du tout. Je ne sais pas si c'est une vraie théorie ou pas, qu'il y a une photographie féminine ou masculine, je ne sais pas. Moi, je revendique ma féminité énormément, en tant que photographe, je veux dire.
Oui, la danse aussi, il y a quelque chose de dansé très souvent.
C'est aussi ce qui me permet de photographier les femmes.
Oui. Alors justement, je voudrais en venir à une question à ce propos. Une autre de tes... tu as plusieurs caractéristiques. La générosité, la liberté, la justesse, mais aussi une certaine pudeur. Tu es quelqu'un de pudique et par exemple dans tes photos de femmes ou même de situations amoureuses, tes photos sont toujours d'une très grande pudeur. Tu n'es absolument pas du côté du voyeurisme, du...
Quand je fais des photos de femmes, c'est essentiel qu'elles plaisent aux femmes. Si elles ne plaisent pas aux femmes, c'est que j'ai raté mon œuvre entière. Enfin, c'est essentiel. Enfin, là, il y a toute une autre théorie à faire sur... C'est autre chose, on peut le faire une autre fois, mais il y aurait carrément un livre à faire, à plusieurs, sur la vulgarité. Aucune photo de Vouva n'est vulgaire. Même à nu, de Vouva n'est pas vulgaire. Pourtant, 99,99% des nus en photo sont vulgaires. Pas Vouva. Ça, c'est même très intéressant. Il y aurait une véritable thèse à faire sur ça, à mon avis. La vulgarité en photo. Parce que la vulgarité, elle est dans l'intention.
Dans l'attention.
Dans l'intention.
L'intention.
Dans l'intention. Voir les couvertures des revues de photos, il y en a quelques-unes où les bras m'en tombent. C'est tout de même incroyable. De bêtises.
Alors, je voudrais dire aussi que...
Pas toutes, hein, quelques-unes, pas toutes.
Tout à l'heure, j'ai parlé de ta prodigalité, de ta générosité, du caractère quasiment infini des possibilités que tu as de faire des expositions ou des livres. Il est très difficile, d'ailleurs, de te suivre, de suivre tes œuvres, parce que tu fais un très grand nombre de livres, par exemple, et dans des formats très différents. Dans des formats très différents, et quelquefois, comment dire, de manière très, très, très modeste, très simple. Et tu as même plaisir, quelquefois, à ce qu'une de tes photos serve d'affiche dans le métro ou soit choisie comme couverture de livre de poche.
Ça, c'est mon métier. J'aime bien voir comment les photos sont utilisées. Récemment, ça a été amusant avec Point Seuil. Ils ont fait 3 couvertures des chroniques de...
Le Bon Tounès.
Non, des chroniques du Portugais. Le
Bon Tounès.
Et puis, ils ont fait 2 couvertures de Mac, l'écrivain américain.
Ah oui.
Donc là, c'est intéressant de voir comment les photos sont utilisées. Mais Le Bon Tounès, j'étais vraiment très fier, parce que c'est un merveilleux écrivain.
Et avec Alain Beguery, nous avons rencontré à Lisbonne.
Ah oui.
Avec nos élèves, ah oui. Ah, et oui, ça fait partie de notre projet de rencontrer un écrivain. Les élèves étaient formés à au style de l'auteur à travers un de ses livres, Parlons de la ville.
Ah,
et
oui.
Alain les formait à la photographie pendant 2 ans d'ailleurs, chaque fois.
Ah.
Et ensuite, nous allions 8 jours dans la ville et chaque élève devait essayer de faire des photos qui illustrent, qui témoignent de sa vision du style de l'auteur sur la ville. Et nous avons rencontré chaque fois l'écrivain Lobo Antunes à Lisbonne, dans son atelier où il écrit. Et comme Elisabeth Arasi aussi.
En Italie, oui.
Oui, tout à fait.
C'est bien ça.
Comme quoi
la littérature et la photographie, même combat. Hein.
Alors justement, ça pourrait être intéressant là, que tu nous expliques. Alors, parmi les livres, il y a d'autres livres qui sont parus récemment. Couleur plossue, sublime. Ce sont des photos couleurs selon le procédé Fresson.
Ouais.
Tu avais déjà fait, il y a quelques années, un plossu couleur Fresson.
À Nice, oui.
Oh, qui est admirable. Admirable.
Il m'aime bien, excusez-moi, je ne sais pas quoi dire.
Oui. Et ce procédé couleur Fresson, c'est un procédé qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux en parler?
On aime ou on n'aime pas. Fresson, Théodore Henri Fresson a inventé le tirage au charbon au début du XXe siècle. Il a tiré toutes les photos très connues de l'Espagnol, toutes les photos très noires... De l'Espagnol qui faisait tous les châteaux en Castille. Comment il s'appelle ? Enfin, son fils, Pierre, a appliqué ça dans les années 50 aux diapositives. Son petit-fils, Michel, a continué avec les gens de ma génération. Michel a 74 ans. Et l'autre petit-fils, maintenant, Jean-François, qui a 35 ans, continue. Donc, c'est un laboratoire artisanal à Savigny-sur-Orge qui tire des photos Fresson mat avec du grain. On aime ou on n'aime pas. Il y a des détracteurs, il y a des gens qui détestent le procédé Fresson, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui me reprochent de travailler avec Fresson. Moi, c'est pas compliqué, je travaille avec lui depuis mars 1967. C'est le seul qui, dans les tirages couleurs, donne la même ambiance que mes noirs et blancs. Donc ça me permet de faire du noir et blanc et de la couleur. Donc avec Fresson, il y a un côté mat et granuleux qui correspond un peu en noir et blanc au film Trix. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que ça sert bien mes images. Mais je sais que, par exemple, dans la presse nationale, quand il y a eu cette grande exposition rétrospective couleur, il y a 2 journalistes qui ont refusé d'écrire parce qu'ils n'aiment pas le Fresson. Ils trouvent ça trop pointilliste, expressionniste, trop à la Seurat. C'est vrai que quand on regarde à la loupe, il y a beaucoup de grains. Moi, ça me va. Bon, mais à tort ou à raison. Techniquement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un historien américain qui a mis tous les tirages couleurs au monde sur, en plein soleil pendant un mois, et le seul qui n'a pas bougé, c'est le Fresson. Donc, il est évident quand on dit le nom Fresson aux États-Unis ou au Japon, il est beaucoup plus célèbre dans le monde entier qu'en France. Mais on n'est jamais prophète en son pays.
Et en plus, c'est d'une sensualité extraordinaire.
C'est volupteux, Fresson. Il n'y en a jamais deux pareils. S'ils me tirent deux fois la même photo, elles ne seront pas pareilles. Ça, c'est rare. Et en quoi, 45 ans d'amitié, je l'ai fait refaire une photo une fois. C'est une seule fois. Où ça ne collait pas. Donc, c'est vraiment... Donc, j'ai fait une confiance aveugle. Quand je reçois un paquet de chez Fresson, je suis comme un enfant qui vient d'ouvrir un nouveau Tintin. C'était le rêve. Je fais partie de la génération... Je suis né en 45. Donc, la génération qui avait tous les Tintins, sauf... Les cigares du pharaon, qui n'existaient pas à l'époque, qui a été réédité beaucoup plus tard. Et toute mon enfance, j'ai vécu dans le rêve de voir en vitrine d'un libraire les cigares du pharaon de Tintin. Ceux qui ont mon âge se souviennent. Les cigares du pharaon, qui est un bon Tintin. Bon.
Alors, autre question, parmi les très récentes parutions, il y a aussi ce petit livre, Berlin 2005, qui est accompagné d'un très beau texte de Jean-Christophe Bailly, ouais. Et qui témoigne ici de ce goût que tu as de travailler avec des écrivains. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais en parler ?
Bon, je ne vais pas faire la liste, mais j'ai beaucoup d'amis écrivains et beaucoup avec qui on a fait des livres. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que quand on a sorti le catalogue à Pompidou, les paysages intermédiaires, en 88, il y avait un très beau texte de Denis Roche. Vraiment un très, très beau texte. Et son nom n'était pas en couverture. Et je me suis dit, plus jamais ça. Dorénavant, quand je travaillerai avec un écrivain, il faut qu'il y ait son nom en couverture, même taille que le mien. Je ne vais plus jamais prendre un préfacé. Enfin, il était même beaucoup plus... En 88, Denis Roche, c'est quelqu'un, et moi, pas du tout. On aurait dû mettre son nom en couverture. Donc, je me rattrape maintenant avec tous mes amis écrivains, on met nos noms en parallèle. Alors ça, le Berlin, c'est Mediapop à Mulhouse qui a fait ça, parce qu'il y a un très bon copain, Schweyer, et Bailly a accepté d'écrire, parce que je sais qu'il est passionné de culture allemande. On lance en même temps une nouvelle collection qui lance cette semaine chez Yellow Now, l'éditeur de Liège. Il lance une collection de petits carnets. Il va en faire deux par an d'inédits. Ils ne sont pas arrivés, là, c'est dommage.
Si, ils sont arrivés.
Ah, ouais.
Je les ai vus hier au rayon photo. Mais je ne les ai pas encore.
Donc on va en sortir deux par an, de choses inédites avec aussi des écrivains. Donc c'est un rapport privilégié qui me flatte beaucoup. Je suis très, très content d'avoir des amitiés comme ça.
Oui, alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'effectivement, tu as tout un des rapports très riches et variés avec de nombreux éditeurs de livres et avec lesquels tu composes en quelque sorte des livres.
J'aime les éditeurs avec qui je peux travailler à la maquette, qui m'autorisent à faire partie de mon projet. Les deux ou trois fois où j'ai pas eu mon mot à dire, ça n'a jamais marché. C'est pas mon livre qui sort. Alors je dirais que j'aime ce qu'on appelle complètement à tort les petits éditeurs. Le Temps qu'il fait, Yellow Now, Image en Manœuvre, Filigrane, Mediapop, on les appelle des petits éditeurs, ce n'est pas des gros éditeurs, mais avec eux, chaque fois, chaque livre est une aventure de création commune, de mise en page, de format, de titre. On travaille ensemble. Et je suis pas demandeur de livres chez les grands. Je m'en contrefous. Je suis ravi, tel que je suis, à faire des petits livres à 1000 exemplaires avec des éditeurs qui partagent. On revient à la case départ. Avec eux, je partage.
Et tu fais aussi des expositions et des livres en Espagne, en Italie, en Belgique, etc. etc.
À Aix-en-Provence. Voilà. À Bordeaux. Donc Bordeaux.
Quand... Nathalie, elle a créé l'itinéraire des photographes voyageurs.
Ça fait 20 ans, je crois, qu'on a fait la première expo avec Nathalie. C'est il y a longtemps. Il y a ça aussi. Ce qui fait que je fais ce que je fais, c'est que je suis complètement ravagé, obsédé, torturé tout le temps. En fait, ça fait 50 ans que je ne suis pas reposé. C'est pour ça que j'aime les cailloux, parce que là-haut, j'oublie tout. C'est obsessionnel. Je crois que je ne connais pas un auteur ou un artiste qui ne soit pas obsessionnel.
Ça peut être le mot de la fin.
On est des fous. Toi, t'es complètement obsessionnel, toi.
Oui, oui.
Oh là là. c'est sa plus belle qualité. Enfin, c'est,
ah, merci.
C'est merveilleux. Enfin.
Bon, merci.
Merci à vous. À la vôtre.